BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Raphaël Couder, Good Evening Business.
Presque 18h sur BFM Business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On est ensemble et en direct jusqu'à 19h. À la une, ce soir, de nouveaux actes de sabotage touchent cette fois les infrastructures télécom. Trois jours après la SNCF et en plein Jeux Olympiques, ce sont désormais les opérateurs téléphoniques qui sont visés. Le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête. On fait le point dans un instant avec Mathieu Pechberti dans le journal. Et à 18h10, Nicolas Guillaume, le patron d'un opérateur directement concerné, sera sur notre antenne. La fièvre olympique gagne la France et Paris, les médailles s'enchaînent pour les athlètes. Une vingtaine de sites parisiens accueillent depuis ce week-end les célébrations des Jeux. Un engouement qui profite évidemment au secteur de l'événementiel. On en parle également dans cette émission avec Arnaud Chouraki, le patron de MCI France, qui gère notamment le Club France à la Villette, à Paris. Et puis, cette autre question, est-ce que ces Jeux olympiques vont profiter aux opérateurs de transport ? On posera la question au directeur de Flixbus France dans la deuxième partie de cette émission. Tout cela et bien d'autres choses, c'est ce soir dans Good Evening Business. Mais on démarre tout de suite avec le journal.
Good Evening Business, le journal.
Après les trains, autour des réseaux télécoms, des actes de vandalisme ont ciblé ce matin les infrastructures des principaux opérateurs téléphoniques. 6 départements français sont touchés. Que sait-on précisément, Mathieu Pechberti ?
Alors, les actes ont été commis la nuit dernière, hein, entre 1h et 3h du matin, dans plusieurs départements français, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Hérault, la Meuse et l'Oise, sur le réseau, ce qu'on appelle de longue distance, de la fibre optique qui traverse la France et qui relie notamment, évidemment, l'Internet et donc nos box, en tout cas Internet qui passe par nos box, mais également la fibre qui relie les antennes relais des téléphones mobiles, pour les téléphones mobiles, et donc l'Internet mobile, la 3G, la 4G et la 5G. Alors, ça fait en réalité peu de territoires qui ont été touchés et peu de clients. Le principal opérateur qui a été touché, puisqu'il s'agit d'un opérateur dit d'infrastructure, donc qui opère ces infrastructures, ces câbles de fibre optique, c'est SFR qui tient à rassurer sur le nombre de clients, de ses clients en tout cas impactés. Il parle de 10 000 clients seulement et d'une vingtaine d'antennes mobiles. Hein. Il y a environ SFR, environ 27 000 antennes mobiles, donc c'est effectivement très peu sur son territoire. Mais d'autres opérateurs qui louent le réseau de SFR, qui louent ces câbles-là à SFR, ont été touchés, comme Free, Bouygues ou d'autres opérateurs moins connus étrangers, British Telecom ou Vodafone, qui eux en général ont des clients plutôt entreprises. A priori, SFR et les autres opérateurs de taille, ou on va dire plus connus par le grand public comme Free, estiment que tout devrait être réparé demain.
Oui, donc un impact relativement minime. La question qu'on peut se poser maintenant, après les transports, les réseaux télécoms, qu'en est-il du réseau électrique ? Est-ce que les infrastructures énergétiques sont particulièrement vulnérables, Mathieu ?
Oui, c'est la grande question, puisqu'il s'agit effectivement d'infrastructures critiques, hein, les transports, les télécoms et le réseau électrique qui finalement est le plus sensible car il relie des infrastructures importantes, militaires, gares, hôpitaux, voire centrales nucléaires. Alors, Enedis, qui est le distributeur d'électricité, et RTE, qui est le gestionnaire des grandes lignes, sont évidemment sur le pied de guerre. Des équipes spéciales ont été déployées pendant les Jeux Olympiques pour surveiller les sites olympiques, notamment pour Enedis, mais RTE, lui, s'occupe davantage des points névralgiques, hein, sur le réseau électrique français, notamment autour des métropoles et évidemment autour de Paris, avec des surveillances de sites, notamment par la police et des agents spéciaux 24 heures sur 24. Pour le moment, il n'y a rien à signaler, c'est très clair chez Enedis ou chez RTE, mais évidemment une vigilance extrême compte tenu de ce qu'on appelle du statut d'opérateur d'importance vitale, qui fait que RTE et Enedis sont sous la surveillance et la sécurité des forces de l'ordre et notamment de l'armée.
Merci Mathieu Pechberti. On va revenir après ce journal sur ces dégradations du réseau télécom avec Nicolas Guillaume, le président de Netalis, l'un des opérateurs qui a été touché aujourd'hui. Dans l'actualité également, le gouvernement fait un pas en direction des céréaliers. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, promet d'activer un dispositif d'aide exceptionnel si les récoltes se révèlent aussi mauvaises qu'elles en ont l'air. La faute à une météo capricieuse au printemps, les perspectives de rendement sont en effet particulièrement inquiétantes. Hélène Cornet.
La production céréalière est attendue en baisse de 10 à 20% par rapport à l'an dernier, jusqu'à moins 50% sur certaines zones, blé, orge, colza, maïs. Il faut attendre la fin des moissons pour avoir une idée réelle des pertes. Principale explication, la pluviométrie exceptionnelle et les conditions d'ensoleillement de ces derniers mois qui ont décalé les semis. Le ministre de l'Agriculture est venu constater la situation en Eure-et-Loire, Marc Fesneau.
Ceux qui sont assurés vont pouvoir bénéficier des primes d'assurance qui couvriront une partie de leurs pertes. Pour ceux qui auront perdu beaucoup, c'est-à-dire plus de 50% de leur récolte, là aussi le mécanisme assurantiel va pouvoir s'activer. Et puis nous allons activer avec les services de l'État dans les départements, les préfets, les directions départementales des territoires, un certain nombre de mécanismes qui sont des mécanismes de droit commun et sur lesquels on peut jouer dès à présent.
Le gouvernement démissionnaire sera-t-il encore à la manœuvre le mois prochain? L'idée est surtout d'entamer dès à présent les discussions avec les principaux syndicats agricoles pour que les choses soient prêtes rapidement, quels que soient les prochains responsables politiques en charge de ces questions. Le rendez-vous est pris dans 10 jours pour faire un bilan plus précis des récoltes.
Voilà pour les explications à d'Hélène Cornet. Dérapage en vue pour les dépenses de santé. Dans son dernier avis dévoilé par le quotidien Les Échos, le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie sonne l'alerte. Les remboursements de soins pourraient déraper de plus d'1 milliard d'euros d'ici la fin de l'année. Un envol imputable à la plupart des postes de soins, de la biologie médicale au transport de patients, en passant par les honoraires des médecins spécialisés. Au Royaume-Uni, c'est un trou de 22 milliards de livres dans les finances publiques qu'il va falloir combler. La nouvelle ministre des Finances britannique s'exprimait cet après-midi devant la Chambre des communes. Rachel Reeves remet clairement la faute sur les conservateurs accusés d'avoir caché l'état véritable des finances publiques. Elle a également préparé le terrain à un serrage de vis budgétaire. Écoutez.
Nous avons hérité d'un excès des dépenses de 22 milliards de livres. Un trou de 22 milliards de livres dans les finances publiques, maintenant, et non dans le futur. 22 milliards de livres dépensés cette année et recouverts par le Parti conservateur. Si nous ne faisons rien, cela voudrait dire une augmentation de 25% du déficit budgétaire. Je voudrais aujourd'hui mettre en place les mesures nécessaires que j'ai déjà établies pour réduire la pression sur les finances publiques de 5,5 milliards de livres cette année et de 8 milliards l'année prochaine.
Voilà, et toujours dans l'actualité internationale, les doutes de la communauté internationale après la réélection de Nicolas Maduro au Venezuela. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, réclame une transparence totale dans le processus électoral. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, s'est lui aussi montré particulièrement dubitatif sur les résultats annoncés. Écoutez.
We have serious concerns. Nous craignons sérieusement que le résultat annoncé ne reflète pas la volonté ou le vote du peuple vénézuélien. Il est essentiel que chaque vote soit compté de manière juste et transparente, que les responsables électoraux partagent immédiatement les informations avec l'opposition et les observateurs indépendants, et que les autorités électorales publient les résultats détaillés des votes. La communauté internationale suit la situation de très près et réagira en conséquence.
Voilà, des résultats également contestés dans le pays. L'opposition assure que c'est son candidat, Edmundo González, qui a remporté 70% des suffrages. Pour Thomas Posado, maître de conférence à l'université de Rouen et spécialiste du Venezuela, cette crise pourrait avoir des conséquences négatives sur l'économie du pays qui se portait pourtant de mieux en mieux.
Le Venezuela avait renoué avec la croissance et avec un enrayement de l'hyperinflation qui caractérisait son économie entre 2014 et 2020, on voyait une augmentation réelle de la production de pétrole quotidienne du Venezuela. Ce schéma de redressement économique pourrait être enrayé par la crise politique qui couve si ces protestations électorales ne sont pas résolues rapidement. Et vu le niveau de divergence entre les deux estimations électorales, il est probable qu'ils ne se mettent pas d'accord dans l'immédiat.
Au Japon, les constructeurs automobiles s'organisent. Selon le Nikkei, le quotidien japonais, Mitsubishi envisage de rejoindre la nouvelle alliance formée entre Nissan et Honda dans l'électrique et les logiciels. Face à la concurrence de plus en plus féroce dans ce domaine, les entreprises automobiles japonaises n'ont d'autre choix que de se serrer les coudes. Justine Vassogne.
L'union fait la force, c'est le constat de l'industrie automobile japonaise. Au mois de mars dernier, Honda et Nissan, pourtant rivaux historiques, avaient créé la surprise. En annonçant leur alliance, les entreprises incapables de changer seront éliminées, avait alerté le patron de Honda. Assommé par la concurrence chinoise, Honda, Nissan et Mitsubishi vont collaborer sur les composants pour voitures électriques et les plateformes logicielles. Mitsubishi devrait également aider Honda à produire des voitures hybrides rechargeables et à concevoir voire des mini-voitures. Ensemble, les trois constructeurs forment un nouveau géant de l'automobile, avec plus de 8 millions de voitures à leur actif, derrière Toyota, un géant fragile. Les résultats des deux anciens partenaires de Renault, Nissan et Mitsubishi, la semaine dernière, ont continué d'inquiéter les investisseurs. Un géant avec un retard gigantesque à combler. L'année dernière, Honda, Nissan et Mitsubishi n'ont vendu à eux trois que 145 000 voitures électriques, quand Tesla et BYD en ont livré chacun plus d'un million et demi.
Justine Vassogne, dans l'actualité également, ce nouveau record d'activité pour les jeux d'argent et de hasard. Les opérateurs du secteur ont enregistré 13,4 milliards d'euros de produits bruts, soit presque un demi-milliard de plus qu'en 2022. Près de la moitié des Français majeurs a joué à un jeu de hasard ou d'argent sur ces 12 derniers mois, indique l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. Et c'est en particulier le poker qui enregistre la plus forte progression sur un an, en hausse de 14%. Bientôt, davantage d'aide à la rénovation des logements. Un décret a été publié discrètement il y a quelques jours et il va permettre de réduire le reste à charge des propriétaires qui se feront aider dans la rénovation énergétique de leurs biens. Marie-Cœur de Roy.
La mesure est un peu technique, mais elle pourra permettre aux propriétaires d'économiser plusieurs milliers d'euros dans leurs travaux de rénovation. On parle de la règle d'écrêtement, règle qui fixe un reste à charge minimal en fonction des revenus des bénéficiaires des aides nationales comme MaPrimeRénov et local. Ainsi, si les foyers les plus modestes pouvaient déjà se faire financer à 100% en cumulant toutes les aides, pour les autres, il y a des plafonds. Et ce sont ces plafonds qui ont été revus au bénéfice de tous les propriétaires. Pour les ménages modestes, les aides pourront couvrir jusqu'à 90% des travaux contre 80% aujourd'hui. Les ménages intermédiaires passeront de 60 à 80% et les plus aisés de 40 à 50%. Des plafonds qui ne s'appliqueront qu'au 1er janvier prochain, ce qui pourrait inciter de nombreux ménages à attendre. La plateforme EFI donne l'exemple d'une rénovation à 30 000 euros. Pour un ménage aux revenus intermédiaires, les aides cumulées pourront atteindre 24 000 euros contre 18 000 aujourd'hui.
18h11 sur BFM Business. On va tout de suite sur les marchés. Et on vous retrouve, Étienne Brac. Étienne, le CAC qui clôture en baisse aujourd'hui.
En effet, une baisse de quasiment 1% pour le CAC 40 qui redescend sous les 7500 points, 7443 points ce soir à la clôture, avant encore une grosse semaine en termes de publication, puisque vous avez 13 sociétés du CAC 40 qui vont dévoiler leurs résultats semestriels cette semaine. En attendant, ce sont encore les publications de la semaine dernière qui continuent d'être arbitrées, à l'image notamment de Stellantis. C'est la plus forte baisse du CAC 40 ce soir, moins 3% sous les 16 euros, avec Deutsche Bank, qui revoit à la baisse son objectif de cours. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cet avis sur notre site BFM Bourse. Et puis du côté des publications en Europe, c'est toujours compliqué, à l'image d'Heineken, avec des résultats sous les attentes, que ce soit en termes de volume, mais aussi en termes de valeur. Le titre perd quasiment 10% ce soir du côté d'Amsterdam. Et puis du côté des matières premières, à noter le pétrole qui redescend sous les 80 dollars, avec encore pas mal d'inquiétudes concernant la Chine et un redémarrage qui se fait attendre. Tout ça pèse sur les matières premières qui perdent plus d'1% ce soir.
Du côté de Wall Street, c'est calme, Étienne.
On a fait, avec notamment une semaine qui sera là aussi importante, avec les GAFAM qui vont publier cette semaine. Ça sera autour de Microsoft mardi soir, puis de Meta mercredi, et enfin Apple et Amazon jeudi. Donc en attendant, c'est le calme plat, que ce soit sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, qui sont stables. À surveiller aujourd'hui le Bitcoin, qui gagne quasiment plus de 2% avec ce week-end Donald Trump qui a promis le limogeage du patron de la SEC. C'est le gendarme boursier américain. 69 000 dollars pour le Bitcoin, avec donc l'ex-président qui se décrit désormais comme pro-Bitcoin. Et puis enfin, une valeur à suivre du côté de Wall Street, c'est McDonald's, avec des résultats sous pression, en dessous des attentes, avec l'inflation, une baisse dans la fréquentation dans ces magasins, mais ça n'empêche pas la valeur de progresser, quasiment 1% de progression pour ce titre McDonald's. Et donc Wall Street qui est stable, que ce soit sur le S&P 500 et sur le Nasdaq, quand vous avez un indice large qui de son côté prend 0,3% ce soir.
Merci, Étienne Brack, restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, on va revenir sur ces actes de sabotage qui ont touché cette fois les infrastructures télécom.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Raphaël Coudert, Good Evening Business.
De nouveaux actes de sabotage qui viennent frapper cette fois non pas le réseau SNCF, mais les infrastructures télécom. C'était au cours de la nuit dernière. Des actes de vandalisme ont été constatés dans 6 départements français. Bonsoir Nicolas Guillaume. Vous êtes le président de Netalis, opérateur télécom dédié aux professionnels. Ces actes de malveillance concernent des câbles de fibre optique longue distance, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle des autoroutes ou des LGV numériques au choix, pour schématiser. C'est là où passent tous les flux Internet. Quand vous regardez des photos, des vidéos, quand vous envoyez des emails ou que vous en recevez, eh bien, inévitablement, vous empruntez sans le savoir pendant quelques millisecondes ces autoroutes numériques qui parcourent le territoire français.
Vous avez été vous-même, Netalis, touché par ces désagréments. Quel est l'impact concrètement pour vos clients ce soir ?
Alors le 27 avril 2022, on avait eu un incident comparable. On avait évidemment appris de cet incident pour créer plus de résilience sur nos réseaux de fibre optique. Et donc nous avons eu des ralentissements durant la nuit. L'incident chez nous a été démarré aux alentours de 2h15 du matin. Et puis jusqu'à à peu près 6h, nous avons eu quelques ralentissements. Et nos clients n'ont absolument souffert d'aucun impact à compter de 8h30 environ. Donc ça a été des ralentissements pour utiliser leurs services en ligne, leurs services à distance. Et ça a été le cas, je crois, chez beaucoup d'opérateurs du marché. Ce soir, il n'y a quasiment plus aucun impact chez Netalis et je crois d'ailleurs chez la plupart de nos confrères grands opérateurs nationaux impactés.
Donc un impact relativement minime chez SFR, environ 10 000 clients fixes ont été concernés, c'est relativement peu. On peut néanmoins s'interroger après les attaques contre la SNCF qui concernaient déjà des câbles de fibre optique, est-ce que c'est pas là un point faible de notre infrastructure ?
C'est de toute évidence des infrastructures qui sont vulnérables et surtout qu'on ne peut pas comparer nécessairement les infrastructures de transmission de signaux de sécurité et autres de la SNCF qui sont, on le sait, assez vulnérables et qui sont pas reroutables. On ne peut pas changer le trafic comme ça pour changer l'endroit par lequel passent les flux sur le réseau SNCF, en tout cas le réseau de transmission. Là, sur les réseaux télécoms, on a pu fort heureusement le faire, ce qui a minimisé largement les impacts de toutes ces coupures qui sont au demeurant très très importantes sur ces câbles, mais qui là encore une fois ont été minimisés grâce au travail des opérateurs et qui ont pu comme ça rerouter le trafic quasiment en temps réel.
À quel point justement ce réseau est-il vulnérable ? On ne peut pas mettre des agents de police partout bien entendu. Est-ce qu'il serait possible pour des auteurs de potentiellement faire davantage de dégâts que ce qui a été la nuit dernière ?
Vous savez, Internet, c'est un réseau qui est globalement résilient et localement vulnérable. Donc, de toute évidence, vous pouvez toujours saboter des équipements de façon très localisée. Pour autant, vous ne pourrez jamais atteindre l'intégralité de l'Internet. Vous ne pourrez pas le faire tomber comme ça par magie. Donc, heureusement, vous ne pourrez pas casser Internet, si vous me permettez cette expression. Donc, les auteurs peuvent toujours continuer. Mais vous savez, au fil des années, plus ils attaquent, plus nous, les opérateurs, on rend les réseaux les plus redondants, les plus résilients possibles. Donc je pense que lors des prochaines attaques, parce que je suis hélas persuadé qu'il y en aura d'autres, eh bien je pense que les attaques seront minimes, en tout cas strictement imperceptibles par les usagers français, parce que justement nous ferons le nécessaire en ce sens.
Et du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sécuriser encore davantage ces réseaux télécoms pour qu'ils soient moins exposés aux actes de sabotage ?
Bon, vous savez, je pense pas grand-chose, c'est dans la main des opérateurs d'utiliser des infrastructures différentes pour relier les villes entre elles. Les fibres optiques aujourd'hui, elles passent le long des voies navigables, le long des autoroutes, le long des voies SNCF, le long des lignes à haute tension. Eh bien, il faut mixer l'usage de ces infrastructures pour que tout cela fonctionne correctement. Voilà.
Merci beaucoup Nicolas Guillaume, président de Netalis, opérateur donc touché par ces actes de sabotage aujourd'hui. 18h19 sur BFM Business, on va passer à un tout autre sujet dans l'actualité aujourd'hui. Cette fièvre olympique qui s'est emparée de Paris, une vingtaine de sites parisiens accueillent depuis ce week-end les célébrations des Jeux et cet engouement, il profite évidemment au secteur de l'événementiel. Les entreprises du secteur sont sur le pied de guerre et on va en parler justement avec Arnaud Chouraki. Bonsoir.
Bonsoir.
Arnaud Chouraki, vous êtes directeur général de MCI France, agence événementielle qui gère notamment le Club France. Cet été, le Club France est cette immense fan zone installée dans la grande halle de la Villette pendant toute la durée des Jeux. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'on peut y trouver à ce Club France? Qu'est-ce qu'on peut y faire déjà?
On peut y faire tout ce qu'on aime quand on est un amoureux de sport, et surtout aller encourager et célébrer les athlètes français et françaises quand ils remportent des médailles. Donc tous les jours, il y a des célébrations à des rythmes assez précis en fonction des titres, bien sûr, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas été déçus.
Une programmation en termes de musique, c'est ça?
Également.
Des athlètes qui se rendent sur place?
Tout à fait. Beaucoup d'athlètes, beaucoup de studios télé, radio, vidéo. Votre groupe est présent là-bas. Et énormément de fervent, bien entendu, des artistes qui viennent tous les soirs réaliser des showcasing, et c'est impressionnant.
Et évidemment, des fans français qui viennent pour regarder les compétitions. Ça représente combien de personnes accueillies tous les jours?
Alors, c'est très important. On a reçu hier et avant-hier 27 000 personnes par jour. Donc évidemment, c'est lissé sur la journée. Le Club France est ouvert de 10h à 2h du matin. Il y a à l'extérieur de la grande halle de la Villette tout un showcasing des fédérations françaises de sport. Donc on peut venir s'initier, on peut venir participer à des activités. Hier matin, il y avait d'ailleurs tous les matins, je crois, il y a un cours de yoga à ciel ouvert. Il y avait plus de 3000 personnes hier matin, ce matin. Et ensuite, à l'intérieur de la grande halle, vous avez le showcasing des partenaires, les terrasses hospices et toute la grande scène de célébration avec les concerts. Et naturellement, c'est ouvert au grand public. Il suffit juste d'aller sur le site clubfrance.fr, réserver son entrée, payer 5€ et on a accès à tout.
Et alors, cette installation gigantesque dans la grande halle de la Villette, c'est, on l'imagine, un défi technique, un défi logistique pour une entreprise comme MCI. C'est peut-être plus délicat que l'organisation d'un congrès classique?
Très très différent. Alors nous, on est devenu depuis quelques années un groupe de communication globale, hein, avec bien sûr de la production événementielle, mais aussi du social media, du brand content. On a plusieurs marques au sein du groupe en France, y compris à l'international, puisqu'on est présent dans 30 pays avec une soixantaine de bureaux. Donc on est très clairement le plus gros groupe international indépendant dans notre secteur d'activité, ce qui nous permet malgré tout d'avoir une force de frappe extrêmement importante. C'est pourquoi, certainement aussi, on a été sélectionné pour produire ce projet, parce qu'effectivement, c'est énormément de travail. Le projet vit maintenant depuis un an et demi. C'est une core team à l'agence de 30-35 personnes en préparation, et puis ça monte en puissance, et aujourd'hui, c'est à peu près 500-600 personnes qui sont managées par cette core team sur le site pendant l'exploitation.
Et pour ça, il a fallu, j'imagine, recruter des talents. Est-ce que ça a été un enjeu important pour votre agence événementielle? On sait que dans d'autres secteurs d'activité, ça a été particulièrement compliqué de recruter des talents.
Ça a été assez dur il y a un an et demi, à peu près, et la situation s'est beaucoup amélioré depuis, et c'est devenu beaucoup plus facile, entre guillemets. Il y a beaucoup plus de ressources sur le marché, donc ça a été un enjeu, mais c'était beaucoup moins critique qu'il y a un an et demi. Donc aujourd'hui, on peut considérer que ça fonctionne, enfin, ça fonctionne très bien. Et il faut savoir que cette core team, on n'a que deux managers de MCI Group France dans cette équipe, qui manage toute cette équipe. Ensuite, c'est vraiment une équipe ad hoc qui a été montée. On est 180 aujourd'hui chez MCI Group France, et donc cette core team, elle est de 30 personnes en plus de ces 180.
Et travailler pour les Jeux Olympiques, ça a évidemment une résonance mondiale, tout comme vous étiez sur l'organisation de la Coupe du Monde de rugby il y a quelques mois. Tous ces événements, c'est aussi une vitrine pour MCI, c'est une manière de montrer le savoir-faire français en matière d'événementiel.
C'est absolument extraordinaire comme vitrine, comme vous l'avez dit. On a déjà des contacts pour Los Angeles 2028, puisqu'on a trois bureaux aux États-Unis. Évidemment, 2030 est une fantastique nouvelle. Les Jeux d'hiver dans les Alpes en 2030 est une fantastique nouvelle. Toutes ces nouvelles compétitions internationales qui vont arriver, bien sûr, grâce au Club France, nous positionnent sur le marché comme acteurs extrêmement légitimes.
Avec des retombées économiques positives, qu'est-ce que ça représente un événement comme celui-ci?
C'est gigantesque. Je peux pas donner de chiffres, naturellement, mais c'est bien sûr, c'est gigantesque. Après, On sait que ce sont des événements qui sont extrêmement compliqués à gérer. C'est des très gros budgets. Hein. Mais bien sûr, ce sont des événements extrêmement extrêmement intéressant, bien sûr, pour l'économie d'un groupe comme le nôtre. Et puis également, c'est pendant 15 jours l'opportunité de mettre le costume de représentation de la France dans le monde entier. Et ça, c'est vraiment extrêmement gratifiant. Pendant 15 jours, nous sommes la représentation de la France aux yeux du monde, là où tous les athlètes français viennent célébrer leur médaille avec leurs fans qui eux-mêmes suivent les compétitions en direct au Club France.
Dernière question, Arnaud Chouraki. On le sait, le secteur événementiel est passé par des temps difficiles. Le Covid a poussé les entreprises du secteur à se réinventer. Qu'est-ce que ça a changé pour vous concrètement dans l'organisation de ce type d'événement?
Ça n'a pas changé grand-chose, il a juste fallu réaccélérer. Alors, on a eu une très grosse transformation dans notre métier, avec beaucoup plus de communication globale dans les projets. Les demandes de nos clients étaient extrêmement précises, avec des vraies logiques de stratégie d'animation de communauté. Donc tout ça nous a amené à nous transformer, à acquérir des nouvelles expertises autour des projets. Et puis, bien sûr, ce qui est important pour le secteur de l'événementiel, c'est qu'aujourd'hui, et il faut le noter encore, la cérémonie d'ouverture est un levier, un rayonnement fantastique pour toute notre filière. Ce qui s'est passé vendredi soir, c'est purement et simplement le talent de toutes ces entreprises du secteur de l'événementiel en France. Et ça, c'est extrêmement gratifiant pour nous de faire partie de cette corporation.
Merci beaucoup, Arnaud Chouraki, directeur général de MCI France, qui gère le Club France, cette fan zone à la grande halle de la Villette, qui est donc ouverte jusqu'à la fin des Jeux. Autre domaine, justement, dans lequel on devrait voir des retombées positives, les produits dérivés dédiés aux Jeux Olympiques. Le comité d'organisation de Paris 2024 a ouvert son Megastore à Paris, en bas des Champs-Élysées, avec un objectif de recettes attendu de 120 millions d'euros. Eva Jaco.
Oui, c'est une boutique géante qui a ouvert sur la place Clémenceau, à deux pas des Champs-Élysées. Ici, on retrouve environ 1000 références de produits officiels des Jeux Olympiques qui vont de 5 à 800 euros. On trouve des casquettes, des mascottes, des t-shirts, tout ça sur une surface de 1000 mètres carrés. C'est une ouverture qui a été opérée par Legends, qui avait notamment travaillé pour la Coupe du Monde de rugby l'an dernier. Une organisation d'une très grande précision, selon Christophe Rousseau, le directeur de Legends en France, réalisée avec plus d'anticipation que pour la Coupe du Monde de rugby, soit un an à l'avance. Édouard Pardon, bonjour. Alors, vous êtes le directeur licence et retail de Paris 2024. Vous avez déjà ouvert une douzaine de boutiques, mais ici, c'est vraiment votre magasin étendard.
C'est effectivement la plus grande boutique pour Paris 2024. Elle permet surtout à tous les visiteurs, à tous les touristes, à toutes les personnes de passage, y compris ceux qui n'ont pas la chance d'aller sur les sites de compétition, de pouvoir accéder donc à cette boutique, de pouvoir avoir une expérience de produit officiel Paris 2024. C'est une boutique qui fait 1000 m² et qui propose une offre de plus de 1000 références.
Plus de 1000 références, alors qu'est-ce que vous proposez concrètement? Qu'est-ce qu'on peut trouver ici?
Alors on peut trouver à peu près toutes les catégories de produits, de la peluche bien entendu, notre meilleure vente, la peluche, la mascotte.
Ça c'est le best-seller.
C'est le best-seller, tout à fait. Et nous avons également le textile, les casquettes, les t-shirts. Nous allons trouver des produits comme des accessoires, des pins, des petites tours Eiffel. Voilà, tous les produits qui font penser à la France, qui font penser à Paris, qui font aussi penser aux Jeux. Nous avons les tenues des athlètes de l'équipe de France olympique et paralympique. Donc voilà, nous avons une offre qui est très large et qui permet de se faire plaisir et de faire plaisir à ses proches.
Donc on retrouve des produits officiels et notamment des marques françaises comme le slip français par exemple.
Oui, tout à fait. Alors nous travaillons avec 80 acteurs de la licence, pour la plupart des petites et moyennes entreprises françaises. Beaucoup d'entre elles proposent des produits faits en France. Je pense donc à la peluche Made in France, faite par Doudou et compagnie. Nous avons également donc du textile, vous l'avez cité, le slip français. Nous avons également donc des espadrilles comme avec paillotte. Nous avons le béret français. Nous avons les planches de charcuterie avec le coq français. Donc nous avons vraiment beaucoup d'entreprises qui ont eu la volonté d'apporter leur savoir-faire.
Alors vous attendez ici 10 000 visiteurs par jour à peu près. Vous attendez à un chiffre d'affaires de combien jours?
Alors, nous attendons effectivement un peu plus de 10 000 visiteurs par jour. Nous espérons pouvoir transformer au moins un tiers, voire 40% d'entre eux. À l'heure actuelle, nous sommes à peu près à 20% de ce que nous attendons faire sur la totalité des jeux. Nous avons ouvert une dizaine de boutiques, nous allons en ouvrir 150. Donc bien entendu, tout va monter en puissance et nous sommes assez confiants pour réaliser plus de 100 millions d'euros de revenus pour Paris 2024.
En plus des 150 boutiques officielles, Paris 2024 vend plus de 8000 références dans 30 000 points de vente en France. Tout réseau de distribution confondu, magasins de souvenirs, grande distribution ou encore vente en ligne.
Voilà, Eva Jaco sur les Champs-Élysées à Paris qui nous faisait visiter le Megastore de Paris 2024.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business, on est en direct ce soir et on va parler d'IA avec Culture IA, avec un thème d'actualité en cette période estivale, la surexposition au soleil. Le nombre de cancers de la peau a été multiplié par 3 en 30 ans. Anthony Morel vous propose de découvrir une innovation française qui pourrait révolutionner la lutte contre ce fléau, un robot dermato.
BFM Business, Culture IA, Anthony Morel.
Tous les dermatologues le disent, on s'expose beaucoup trop au soleil et il faut faire très attention, se faire dépister régulièrement. Et dans ce domaine, comme dans bien d'autres, eh bien, l'intelligence artificielle pourrait tout bouleverser. Aujourd'hui, le dispositif est toujours un petit peu le même et il n'a pas vraiment évolué en plusieurs décennies. Vous arrivez chez le médecin et on va vous examiner avec un dermatoscope, une grosse loupe qui permet eh bien, d'analyser les grains de beauté. Demain, on pourrait utiliser un robot dermato. C'est une start-up française qui s'appelle SquareMind qui a mis au point cet appareil qui est assez étonnant. Le principe, c'est un écran couplé à un bras robotique qui ressemble à un gros serpent équipé d'une caméra et qui va tourner autour de vous et qui, en 3 minutes chrono, eh bien, va examiner chaque millimètre carré de votre peau et en réaliser une sorte de jumeau numérique, une cartographie de votre peau. L'avantage de ça, il est multiple. Le premier, c'est qu'il va être capable de détecter un problème éventuel, un grain de beauté suspect, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'on va remplacer le médecin humain, évidemment, mais on va voir l'œil du médecin et celui de la machine en plus, c'est ceinture et bretelles. Le deuxième gros avantage, c'est le suivi du patient. Si je reviens chez le médecin, 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, eh bien, la machine va se souvenir de moi et va pouvoir me dire de manière extrêmement précise ce qui a évolué. L'enjeu de tout ça, eh bien, c'est de dépister le plus en amont possible des débuts de cancer. À terme, on pourrait aussi se servir de ce genre d'outils pour répondre aux problèmes des déserts médicaux. Ce qui est aussi incroyable, c'est que ce genre de technologie va pouvoir s'intégrer dans des appareils comme nos smartphones. Alors, peut-être pas de manière aussi sophistiquée, mais on peut citer notamment une technologie qui s'appelle DermAssist, qui a été mise au point par Google. C'est un algorithme qui permet, en prenant des photos de sa peau, de détecter plusieurs centaines de problèmes de peau différentes. Alors l'application, encore une fois, ne remplace pas une consultation, mais elle va vous aiguiller et vous décider à prendre ou non rendez-vous chez un médecin. Après, la question, c'est est-ce que ça ne risque pas de créer des générations d'hypochondriaques qui ne vont cesser de se prendre en photo avec leur téléphone à la recherche du moindre petit bobo.
800 000 voyageurs pénalisés ce week-end après les attaques contre le réseau de la SNCF. Forcément, les alternatives ont été prises d'assaut. Les vacanciers se sont notamment massivement reportés sur les bus. Et on va en parler ce soir avec le directeur de Flixbus France, Vincent Hayes. Bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
Flixbus, c'est donc l'un des principaux opérateurs de bus en France. C'est le plus grand réseau européen de bus longue distance. L'effet a été immédiat après les premières annulations ce week-end.
Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a eu des annonces par rapport à la SNCF, sur les axes sur lesquels il y a eu donc, les problématiques qui ont malheureusement eu lieu. Donc ces 800 000 passagers qui ont été impactés se sont massivement rués sur notre site internet pour trouver des alternatives. Donc on a vu un surcroît de demande d'un ordre de 20% sur ces axes, donc le Nord, la Bretagne, Bordeaux, l'Est. Malheureusement, par rapport, on va dire, aux échéances et même à la période des JO, il nous a été compliqué de mobiliser des cars additionnels à mettre sur la route. Ce qui fait qu'on s'est surtout vu avec un taux de remplissage qui a massivement augmenté surtout pendant tout le week-end, mais avec quand même une solution de repli à bas coût pour les passagers.
Ça, c'est devenu un peu votre marque de fabrique. Dès qu'il y a le moindre problème sur le réseau SNCF, par exemple une grève, des centaines, des milliers de voyageurs se reportent sur votre réseau Flixbus?
Alors oui, et je dirais que c'est quand même la meilleure preuve qu'aujourd'hui on est devenu une solution, une vraie alternative en fait tout simplement au train, une alternative économique, sociale, et donc avec oui, ces petites poussées de demande lorsqu'il y a des événements indépendants de notre volonté, de nos actions bien entendu, comme les grèves SNCF,
au-delà,
les problématiques SNCF.
Au-delà de ce petit coup de boost de ce week-end, comment se passe globalement cette saison estivale? Est-ce que par exemple vous sentez un effet particulier lié aux Jeux Olympiques?
Alors oui, tout à fait. Les Jeux Olympiques, on l'a surtout vu dans un premier temps avec des réservations beaucoup plus en avance qu'habituellement. Donc je pense qu'il était également lié aux alternatives au bus, hein, le train, l'avion, qui ont rapidement été très onéreuses. Et ensuite, dernièrement, effectivement, on a un fort taux de remplissage pour la période. C'est une période estivale où, dans tous les cas, nos bus sont relativement pleins. Mais effectivement, on voit un léger boost de la demande.
Mmh, parce qu'on sait que beaucoup d'hôteliers et de restaurateurs se plaignent d'une fréquentation mitigée pendant cette période des JO, alors que ça devait apporter un surplus d'activité. C'est pas forcément ce que vous observez, vous.
Alors, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, il y a une baisse, on va dire, du tourisme qu'on va appeler habituel en région parisienne, mais qui est quand même compensé par cet événement que sont les JO. Donc aujourd'hui, on va dire que le boost de demande pour nos bus, en tout cas, il est limité, mais il est existant. Donc après, effectivement, peut-être que la typologie de voyageurs se ressent plus pour l'hôtellerie parisienne, par exemple. Je n'ai pas les chiffres, mais je sais qu'en tout cas, pour notre activité, on réalise un été satisfaisant.
Il y a eu un effort fait sur le plan de la sécurité. On sait que c'est difficile pour beaucoup de transports au niveau Paris. Est-ce que vous, ça vous impacte? Est-ce que c'est plus difficile de sortir, d'entrer dans Paris pendant ces Jeux Olympiques?
Alors, ce qui a été particulièrement impactant pour nous, c'est le fait que notre gare habituelle parisienne, donc la gare de Bercy-Seine, se situe juste à côté de l'Accor Hotel Arena, qui est un lieu de compétition pour les Jeux Olympiques, et de ce fait est entouré de voies olympiques. La présence de ces voies olympiques rendait très compliqué, très restreint l'accès à notre gare habituelle, ce qui fait que nous avons entamé des discussions avec les parties prenantes institutionnelles telles que la préfecture ou la mairie, et il a été décidé il y a 2 semaines de déplacer notre point d'arrêt principal près du château de Vincennes.
Pour Flixbus, ça représente combien de lignes en Europe, en France aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, là, pendant la période pour juste qui a transité à Paris, sur l'arrêt de Vincennes, on va avoir à peu près 250 bus par jour, plus en France, hein, plus proche de 400 par jour. Donc c'est quand même beaucoup de voyageurs. Hein, juste la région parisienne aujourd'hui, juste la gare de Bercy-Seine, c'est plus de 7 millions de passagers annuels.
L'été dernier, l'été 2023, a été un été record pour beaucoup de transporteurs. Est-ce que ce sera encore mieux cette année? Est-ce que vous êtes optimiste pour l'été 2024?
Alors, je suis tout à fait optimiste. On a rajouté un écart par rapport à ce qui a été fait en 2023, qui était, comme vous l'avez noté, une année remarquable pour toute l'industrie, mais également pour Flixbus. Et donc, en 2024, on table sur une croissance pour l'année au niveau français. Donc, on est jusqu'ici satisfait de nos résultats.
Il y a aussi une interrogation, Vincent Hayes, concernant la gare de Bercy, qui va fermer après les Jeux Olympiques. La gare de Bercy, c'est de cette gare que partent historiquement vos bus à Paris. Est-ce que vous savez déjà où vous allez déménager?
Alors, aujourd'hui, à plein des gares, en fait, rien n'est arrêté sur ce sujet-là. Déjà, la date du fait de quitter Bercy-Seine n'est pas arrêtée. Il y a eu une intervention récemment de David Béliard qui repoussait à minima l'automne 2025 notre départ des lieux. Il faut savoir que suite aux premières annonces d'Emmanuel Grégoire, nous avons entamé des discussions constructives avec les différentes parties prenantes dans lesquelles nous avons partagé nos contraintes. Aujourd'hui, à partir du moment où on va nous annoncer qu'on part, on a besoin de 15 mois minimum pour pouvoir déménager proprement notre activité avec déjà un point de chute. Donc aujourd'hui, on continue à travailler et à discuter avec les différentes parties prenantes. On a plusieurs pistes, mais encore une fois, rien n'est arrêté, comme que ce soit sur les délais ou sur le lieu dans lequel nous déplaçons notre activité. Et il y a d'ailleurs eu récemment un rapport, une analyse sortie par l'ART, l'Autorité de Régulation des Transports, qui fait donc état des difficultés tout simplement par rapport à l'activité si demain Bercy-Seine fermait définitivement.
Vous dites que vous avez plusieurs pistes. Est-ce qu'il y a d'autres lieux à Paris intramuros où vous aimeriez pouvoir mettre vos bus?
Alors, étant donné la taille nécessaire par rapport à notre volume de passagers, dans Paris Intramuros, en dehors de Bercy-Seine, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. En revanche, nous avons lancé des discussions, par exemple, avec Pleine Commune, qui aurait pour potentiellement avoir un projet qui pourrait survenir dans l'espace de Saint-Denis-Pleyel. C'est quelque chose sur lequel on est attentif et ouvert par rapport à la discussion. En ce qui concerne Paris, au-delà, on va dire, d'une éventuelle prolongation temporaire à Bercy-Seine. Il y a l'espace de Porte-Maillot, la gare Pershing, qui était là où nous étions précédemment en 2017, qui pourrait réouvrir ses portes suite à la fermeture de Bercy-Seine. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à trouver une solution qui satisfera toutes les parties prenantes.
Flixbus, c'est aujourd'hui 55 millions de passagers transportés en Europe par an. Comment on fait pour aller plus loin, Vincent Hayes ?
Alors, en Europe, on va travailler à la marge et couvrir les dernières zones blanches qui vont exister. Après, effectivement, Flixbus, c'est le leader européen, comme vous l'avez cité, mais également le leader mondial. On est également présent aux États-Unis, en Inde, en Amérique du Sud, où on a ouvert récemment le Chili après le Brésil. Donc c'est là où effectivement il y a encore pas mal de potentiel de croissance qui reste dans le monde.
Dernière question, Flixbus c'est une entreprise allemande et désormais valorisée 3 milliards d'euros depuis que deux fonds ont repris ensemble 35% du capital au début du mois. Ça va changer quoi concrètement à l'échelle française ? Est-ce que ça va permettre par exemple de développer encore davantage de lignes ?
Alors il se trouve que cet événement finalement est une sorte de non-événement, dans le sens où Flixbus a toujours été bien financé. Il n'y a jamais été question d'avoir un besoin de financement pour tel ou tel projet. Donc là-dessus, je vais vous dire que non, ça ne va pas changer radicalement la façon avec laquelle on travaille. On travaille toujours avec nos partenaires autocaristes dans un souci d'obtenir des rentabilités. Donc on ne va pas se mettre à faire n'importe quoi. On va continuer à bien travailler avec nos partenaires pour répondre à la demande croissante des Français pour une mobilité économique et écologique.
Merci beaucoup Vincent Hayes, directeur de Flixbus France, d'être venu ce soir dans Good Evening Business.
Merci à vous.
À présent, l'international avec Benaouda Abdedaïm qui nous emmenait ce matin dans Good Morning Business au Royaume-Uni, où il revenait sur la charge de la ministre des Finances Rachel Reeves sur les finances publiques.
Le monde qui bouge avec Benaouda Abdedaïm, on vous retrouve Benaouda. Vous nous emmenez au Royaume-Uni ce matin. Royaume-Uni fauché, en tout cas c'est son nouvel gouvernement de centre-gauche qui l'affirme. Il va falloir le prouver.
Oui, le pays est fauché, ruiné même. C'est la formulation écrite employée hier par le bureau du Premier ministre britannique. La nouvelle majorité travailliste dresse un acte lourd d'accusation politique à l'encontre du Parti conservateur resté au pouvoir durant 14 ans. La ministre des Finances va présenter dans les prochaines heures un audit accéléré des comptes publics. Trois semaines après la large victoire des siens aux élections législatives, il devra faire apparaître un trou d'une vingtaine de milliards de livres, pratiquement 24 milliards d'euros. Le 10 Downing Street soutient que cette évaluation va montrer que le précédent gouvernement a pris d'importants engagements pour l'exercice budgétaire sans savoir, je cite, d'où viendrait l'argent. À partir de cette mise en cause, la chancelière de l'échiquier donnera aujourd'hui l'ensemble des indications quant à la date de son projet de loi de finances en fonction de prévisions indépendantes. Ces derniers jours, les membres du nouveau gouvernement britanniques qui promettent l'honnêteté et la clarté ne cessent d'invoquer un héritage calamiteux de leurs prédécesseurs. Dans un entretien sombre à la télévision, le ministre de la Santé affirme que le NHS, le système britannique de santé publique, traverse la pire crise de son histoire. Il y a des choses que nous allons rendre publiques, dit-il, et qui vont choquer les gens. À écouter les travaillistes, l'ensemble des missions centrales de la puissance publique serait en fait affecté dans les mêmes proportions. La ministre de la Justice a ainsi annoncé que des milliers de détenus allaient être libérés de manière anticipée afin de faire de la place dans les prisons. Sinon, le système de justice pénale s'effondre. Son collègue à la Défense, lui aussi, juge que la situation est bien pire qu'anticipée. Les capacités de l'armée, d'après lui, sont épuisées à tous les sens. Un Royaume-Uni fauché, ruiné et donc exsangue en plus.
Alors quel remède, Benaouda, remède budgétaire, les travaillistes envisagent-ils d'apporter ?
Cette volonté d'exposer un tableau apocalyptique vise forcément à faire passer des mesures qui n'ont pas été annoncées lors de la campagne électorale. Le directeur d'un institut d'évaluation des politiques publiques renvoie à cet égard dos à dos les travaillistes et les conservateurs dans une conspiration du silence sur la probabilité d'une hausse des impôts. Parce que, à n'en pas douter, l'outil fiscal va être utilisé au Royaume-Uni. Différentes options sont avancées par les médias britanniques. Le choix devrait être fixé aujourd'hui. Il y a l'hypothèse de relever l'imposition des plus-values sur les valeurs mobilières. Une autre consiste à réduire l'abattement fiscal sur les pensions moyennes de retraite. Certaines taxes spécifiques peuvent être aussi revues à la hausse. Et il est aussi question d'une taxe sur les frais de scolarité des écoles privées. Mais les experts à Londres, en finances publiques et en fiscalité, expliquent que pour récolter le plus de recettes rapidement, il faudra recourir soit à la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA, soit à l'impôt sur le revenu. L'un d'eux pense peu probable que le gouvernement travailliste augmente la TVA, car elle frappe le plus durement, selon lui, les familles les plus pauvres. Alors, ce serait l'impôt sur le revenu. Il calcule qu'en relevant de façon différenciée les seuils des trois barèmes, le Trésor pourrait encaisser 12,5 milliards de livres supplémentaires, de quoi boucher donc à peu près les deux tiers du trou qui va être annoncé. Toutefois, au sein même de cette nouvelle majorité de centre-gauche, des voix s'expriment pour des coupes supplémentaires dans la dépense publique. La ministre des Finances pourrait commencer ce lundi par un report, voire une annulation de différents projets d'infrastructures, des routes, des hôpitaux notamment, d'autant qu'elle est supposée confirmer en même temps une hausse des rémunérations des enseignants et des personnels de santé au-dessus du taux d'inflation. Le tout maintenant pour le nouveau pouvoir, c'est que l'opinion publique admette cette thèse de l'héritage caché.
Voilà, Benaouda Abdedaïm ce matin dans Good Morning Business depuis le nouveau gouvernement travailliste britannique qui dénonce un trou massif dans les finances publiques. La ministre des Finances, Rachel Reeves, s'est exprimée cet après-midi. Elle indique que des décisions difficiles vont devoir être prises. Elle laisse anticiper de possibles baisses des dépenses de l'État ou bien des hausses d'impôts. Le moral des patrons à présent, le moral des patrons et des cadres qui est toujours en berne en cette période d'incertitude politique. Erwan Morris recevait ce matin dans Good Morning Business Adrien Broche, le responsable des études politiques chez Via Voice. Cette question, comment les patrons et les cadres vivent-ils cette période d'incertitude politique? Nous les avons sondés dans le baromètre des décideurs Via Voice HEC pour BFM Business. Bonjour Adrien Broche.
Bonjour.
Merci d'être sur BFM Business ce matin, responsable des études politiques chez Via Voice. Premier constat de cette étude, le moral est toujours en berne, mais n'évolue pas trop négativement non plus, malgré un contexte politique, c'est vrai, inédit, incertain, qui inquiète.
Oui, tout à fait. La première, je crois, information de ce baromètre, c'est le contexte dans lequel il a été réalisé. On ne fait pas tous les jours des baromètres dans une situation politique aussi inédite, sans gouvernement constitué, avec une majorité ni relative nette, ni évidemment absolue. Donc c'est un moment intéressant, un moment d'opinion intéressant. Et vous le dites effectivement très, très exactement. On commence un peu par la conclusion, mais c'est cette stabilité, oui, malgré tout, malgré les inquiétudes sur lesquelles on pourra revenir, cette stabilité du moral des cadres français qu'on sonde depuis 20 ans dans le cadre de ce baromètre.
Stabilité, c'est-à-dire c'est pas très bon, mais ça ne s'empire pas beaucoup.
Exactement. C'est ça, en fait, c'est stabilité dans la dégradation du moral. La dégradation du moral marque le pas, ouais, comme on dit, évidemment, effectivement. C'est pas une stabilité positive, mais c'est vrai qu'on a l'habitude, alors à la fois en début d'été, d'un regain d'optimisme chez les décideurs, les cadres français, souvent, parce que c'est une période où les choses se calment un peu, la perspective des vacances, on commence à avoir un petit peu la manière dont les chiffres vont se dérouler pour la fin d'année. Là, les choses sont plutôt en ligne, effectivement, absence de dégradation, la situation inédite n'amplifie pas cela, donc stabilité, alors on peut le lire de deux manières. Soit c'est finalement la situation était déjà suffisamment mauvaise et au final, elle ne fait que continuer, c'est-à-dire que cette incertitude politique ne fait que confirmer un sentiment d'inquiétude qui était déjà présent.
Et peut-être, je vous interromps, mais peut-être qu'on aurait pu attendre aussi à pire. Les patrons redoutaient des mesures plus compliquées pour eux et finalement le résultat politique fait que l'un dans l'autre c'est pas si terrible. Enfin, il y a une situation de paralysie, mais pour l'instant, justement, cette situation de paralysie fait que ça bloque la chute du moral, quoi.
C'est ça, tout à fait. Alors, il faudra attendre quand même de voir à quoi ressemblera le gouvernement et la suite. Mais c'est vrai que cette nouvelle composition de l'Assemblée ne va pas forcément dans ce sens-là qu'on pouvait craindre. Ce qui aussi laisse présager une sorte de retour au travail à l'entreprise que nous, on a appelé comme ça, c'est-à-dire que dans une période d'incertitude, on essaye de se préparer à l'échelle de son entreprise, notamment si on est patron, pour essayer de prévenir des éventuelles turbulences.
Alors, il y a des choses qui inquiètent dans le détail, hein, donc on voit dans ce baromètre l'impossibilité d'anticiper notamment les prochaines politiques publiques. Ça installe un doute, une incertitude. C'est quoi? C'est pour l'instant statu quo. En fait, on va falloir refaire un baromètre à la rentrée, quoi, pour
voir de toute
comment
même...
ça évolue.
Oui, tout à fait. Un baromètre sera prévu à la rentrée. Je pense que ce sera le delta de différence dans l'opinion qui sera très intéressant à lire entre cette vague qu'on a réalisée au mois de juillet et la prochaine vague, si tant est qu'un gouvernement soit évidemment formé, mais ce qui sera a priori le cas. Donc effectivement, un certain nombre de d'éléments intéressants, votre visuel le montre bien.
Ouais, ceux qui nous suivent en télévision, ouais.
C'est ça, sur les attentes à la fois des décideurs et des Français, parce que c'est un baromètre qu'on mène à la fois sur un échantillon de cadres, de patrons et de un échantillon grand public. Les attentes sont globalement alignées, c'est-à-dire qu'on a une forte attente de réduction des dépenses publiques d'abord, ce qui est plutôt évidemment en ligne avec les annonces de ces dernières semaines de Bruno Le Maire.
Penchons-nous sur les cadres, justement. Ils sont 7 sur 10 à trouver que la configuration politique actuelle est une mauvaise chose pour trois sujets majeurs. D'abord, l'image de la France, les investisseurs étrangers et puis le dynamisme de l'économie française. Rapidement, sur ces trois points, l'image de la France, est-ce qu'elle est ternie? On a vu la semaine dernière que Emmanuel Macron a essayé de rassurer les partenaires des Jeux Olympiques en les invitant à l'Élysée à déjeuner. On avait le patron du groupe Accor, Sébastien Bazin, qui faisait partie de ce déjeuner, qui nous disait, bon, il a plutôt réussi, le président de la République, à me rassurer et à nous rassurer. L'image de la France, elle est... On a des doutes sur ce qu'elle est,
c'est
mais
ça.
Bon, après tout, elle n'est pas non plus complètement abîmée.
Tout à fait. Je pense qu'il faut prendre ces indicateurs avec un peu de prudence. Forcément, dans un moment d'incertitude comme ça, le premier réflexe d'opinion, dans une opinion publique française qui est souvent considérée comme particulièrement pessimiste, le premier réflexe, ça va justement être de dire que l'image de la France va en pâtir parce qu'incertitude, parce qu'en économie, évidemment, rien de pire que l'incertitude, etc., etc. Maintenant, à voir. Cette image de la France, elle est en train, et notamment depuis la soirée des Jeux Olympiques, de reprendre des couleurs. Ce sont des choses qui peuvent vite changer, on le sait. Et là, évidemment, bien au-delà de la simple question économique, on a énormément de facteurs qui peuvent jouer là-dessus, économiques, sportifs, politiques, artistiques. Donc à voir, évidemment, comment cela va évoluer dans les semaines à venir. Mais c'est des choses qui peuvent changer très vite.
Pour les investisseurs étrangers, pareil, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement Macron autour de Choose France, et la crainte c'est aujourd'hui que, vu la situation politique, les investisseurs n'investissent plus ou moins.
Tout à fait, c'est la crainte qui est partagée à la fois par les décideurs et même par le grand public, donc c'est des choses effectivement particulièrement chez les cadres mais aussi chez les Français en général qui comptent. Investisseurs étrangers, image de la France, je dirais que c'est deux éléments qui sont très liés les uns aux autres aussi.
Adrien Broche, toujours dans l'attente de voir ce qui va se passer, les patrons donc se concentrent sur leur business, leur entreprise, sur ce qui fonctionne, quoi.
Tout à fait.
Sur les fondamentaux.
On peut le voir partout, hein, autour de nous. Il y a une sorte de réflexe comme ça, un peu pavlovien, au lendemain d'une élection comme ça, de voir, bon, alors on va essayer de stabiliser ce qui fait la force, ce qui fait justement qu'on a des points de repère pour les mois à venir. Et c'est, je crois, effectivement là-dessus que les cadres et les patrons aussi vont se concentrer et se concentrent déjà à l'aune de l'été.
Sur leur dossier, quoi, hein, vraiment.
Sur leur dossier,
plus que
leur
sur
business,
la politique du pays, ouais.
Tout à fait, ouais.
Dans cette attente. Pour conclure, comment redynamiser? Est-ce qu'on a des pistes pour redynamiser le moral des décideurs? Comment est-ce qu'il faudrait orienter le débat public?
Ah, je dirais rassurer d'abord. Je crois que la première chose dans le cadre de ce baromètre et de ce climat-là, c'est rassurer, c'est-à-dire proposer un gouvernement, alors qu'il soit renversé sur des considérations politiques, c'est un petit peu autre chose, mais en tout cas un premier gouvernement stable qui puisse donner quelques caps, parce qu'on le disait à l'instant, c'est se concentrer sur son travail, mais aussi sur ses équipes et ses salariés. Et ça compte aussi.
Ouais, l'innovation aussi, qui est un petit peu absente. C'est vrai qu'on parle moins d'innovation, d'investissement. C'est quelque chose, un élément qui manque peut-être au patron.
Ouais. Oui, bien sûr. Alors sur certains secteurs, plus évidemment que sur d'autres, mais ce sont des éléments qu'il va falloir. On est dans un moment de suspension, donc c'est évidemment des choses qu'il va falloir à nouveau creuser et à nouveau investir, j'allais dire même politiquement.
Voilà, Adrien Broche, responsable des études politiques chez Via Voice. Il était au micro d'Erwan Morris ce matin dans Good Morning Business. C'est la fin de cette édition de Good Evening Business. Restez avec nous tout de suite, la suite des programmes sur BFM Business. Et demain matin, la matinale à 7h, présentée par Erwan Morris.
Good Evening Business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.